Il faut en finir d'ici la fin de l'année avec les personnes dormant dans les rues, dans les bois. Voilà le souhait formulé par Emmanuel Macron. Le président de la République l'a dit la semaine dernière au cours d'une visite d'un centre d'hébergement de migrants. Alors, est-ce réalisable? Quels sont les moyens pour y parvenir? Témoignez, posez vos questions sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux avec le mot dièse Telson et bien sûr au 01 45 24 7000.
Noé Da Silva, le téléphone sonne.
Un thème qui fait réagir Françoise. Bonsoir Françoise et bienvenue sur France Inter.
Eh bien, bonsoir monsieur. Voilà ma réaction. Je ne crois pas du tout qu'il n'y aura plus d'immigrants ni dans les bois ni dans les rues. Pour moi, ce n'est qu'un effet d'annonce, étant donné que ça ne sera pas réalisable, enfin, en ce qui me concerne.
Pourquoi dites-vous cela ?
Eh bien, parce que nous n'aurons pas les fonds suffisants pour loger, s'occuper des immigrants.
Donc pour vous, c'est une question d'argent. Eh bien, les invités du téléphone sonnent, Françoise, pour vous répondre sur ce thème de la politique migratoire de la France. Avec nous, Pierre Henry, directeur général de l'association France Terre d'Asile. Bonsoir.
Bonsoir.
Denis Allard, bénévole de l'association Accueil Réfugiés 78. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatride. Est-ce que vous allez avoir les moyens d'appliquer cette promesse du président de la République?
Moi, je comprends les interrogations de Françoise, parce que évidemment, quand on voit dans notre pays depuis un moment, alors on n'est pas dans un afflux massif, mais des migrants à la rue, à Calais, à Paris, dans les Alpes-Maritimes, que l'on connaît les difficultés d'un certain nombre de Français, d'étrangers déjà pour accéder à un logement, je comprends les interrogations. Mais moi, je voudrais souligner dans le propos du président de la République un acte politique majeur. Parce que le président, il nous dit deux choses qui sont indissociables. Il nous dit plus de migrants à la rue. Et il nous le dit parce que c'est indigne, il nous le dit parce que c'est coûteux, il nous le dit parce que on ne peut pas accepter ces situations-là qui mettent tout le monde en colère. Vous prenez tout Français, quelles que soient ses opinions politiques, ses obédiences religieuses, ça met les gens en colère. Mais il nous dit aussi une deuxième chose. Il nous dit également que chacun, une fois hébergé, doit très vite voir sa situation administrative examinée. C'est-à-dire, tout de suite, si la personne souhaite demander l'asile et à un moment ou à un autre rapidement saisir l'OFPRA, alors être engagé dans la procédure d'asile, saisir l'OFPRA, voir sa demande d'asile instruite rapidement et si elle relève du droit d'asile, être intégré plus rapidement, comme ça pourrait être, je crois, expliqué notamment par Monsieur Allard. Donc il y a une cohérence politique qui est celle de faire vivre l'asile pleinement dans sa spécificité dès le premier moment, c'est-à-dire ne plus laisser les gens à la rue et ensuite en tirer très vite les conséquences, soit sur le plan de l'intégration des personnes, soit sur le plan de la reconduite lorsqu'elle ne relève pas finalement du droit d'asile.
Mais la question de Françoise, l'interrogation de Françoise porte sur les moyens. Vous, oui, à l'OFPRA, allez-vous avoir les moyens
financiers? Et cette question est évidemment pleinement légitime. Et je veux redire qu'en soi, ce que le président a dit est novateur et politiquement majeur. Et la question est évidemment de savoir comment le système va pouvoir disposer des moyens, mais aussi continuer à se réformer, l'OFPRA et notamment les préfectures, parce qu'aujourd'hui c'est souvent dans l'accès aux préfectures que les délais sont très longs. Les moyens d'hébergement, oui, ces questions devront être posées et réglées.
Pour l'instant, ça n'est pas du tout le cas.
Pour l'instant, le président de la République a posé un principe politique et un acte politique majeur dont je redis qu'il est nouveau. Parce que ce que président nous dit, quand il nous dit il faut que tout le monde soit hébergé, il nous dit qu'il faut arrêter, parce que parfois ça a été une certaine culture, y compris administrative, qui a pu croire que laisser des gens à la rue, c'était dissuasif. Le président est le premier à nous dire non, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens doivent être hébergés dignement et ensuite pris en charge rapidement lorsqu'ils relèvent du droit d'asile.
Pierre Henry, France Terre d'Asile, est-ce que pour vous c'est une question d'argent?
Non, c'est pas simplement une question d'argent, c'est une question d'anticipation.
Donc oui, c'est quand même un peu une question d'argent.
Mais évidemment, pour mettre en place un dispositif digne, il faut de l'argent, il faut anticiper, il faut organiser. Et il faut sortir de l'urgence durable. Il faut rentrer dans un plan de programmation. Mais je voudrais dire que la parole du président de la République qui nous engage, c'est à la fois un objectif, une nécessité, une finalité. Bien évidemment que personne ne doit rester à la rue. C'est ce que nous demandons depuis des années.
Donc vous applaudissez ce que dit le président de la République.
Oui, mais maintenant, il faut penser à un dispositif vertueux. Et le dispositif vertueux, c'est celui qui pense le premier accueil, qui pense la répartition sur le territoire, qui pense l'organisation selon les mêmes règles, et qui pense effectivement à ce qui arrive aux personnes qui vont obtenir le statut. Elles sont de plus en plus nombreuses en France depuis 2 ans, et je m'en réjouis, et puis qui traite aussi de la question des personnes déboutées. Donc, il faut une loi de programmation pour pouvoir réussir tout cela. Je vous rappelle que l'Allemagne, toute proportion gardée, a réussi depuis 2015 à accueillir les réfugiés, les demandeurs d'asile en dignité. Mais le Parlement allemand a voté une loi de programmation de 75 milliards sur 4 ans qui prend tous les aspects de la question en compte. C'est-à-dire
est-ce qu'aujourd'hui on sait combien ça coûterait cette proposition du président de la République ?
Nous ne sommes pas dans les mêmes dans les mêmes flux, dans les mêmes nombres. La France, c'est 85-90 000 personnes au titre de l'asile. Et je vous rappelle que les nombreuses évacuations d'urgence, 35 à Paris, d'autres grosses opérations sur Calais, ce sont des opérations qui coûtent de l'argent. Et nous pensons que cet argent, il peut être employé différemment si on anticipe.
Je pense qu'on aura l'occasion évidemment de revenir sur ces mises à l'abri, notamment à Paris. La question de l'accueil de la part de l'État est à la une de l'actualité avec le gouvernement qui annonce l'ouverture de 2 centres pour les migrants. Le Conseil d'État a ordonné au gouvernement et à la ville de Calais de mettre en place des mesures d'urgence, comme des points d'eau, des douches, des toilettes.
On aurait pu éviter cet aspect
la semaine prochaine. Christian Salamé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être sur France Inter. Vous êtes président de l'Auberge des migrants de Calais. Que vous inspire cette annonce, cette décision aujourd'hui du gouvernement ? Ça veut dire quoi ? C'est l'humain d'abord maintenant ?
Il faut être très précis. Ces centres de premier accueil sont destinés aux personnes qui souhaitent rester en France, qui pourront, comme le disait Monsieur Brice, déposer immédiatement leur dossier de demande, et ça ne concerne que ces personnes-là.
Et ça concerne combien de personnes actuellement ?
À Calais, il y a environ, de notre point de vue, 700 personnes actuellement. Environ 200-300 personnes sur Grande-Synthe. Ce sont des personnes qui, au départ, souhaitent rejoindre leur famille en Angleterre. Il va falloir réussir à convaincre le maximum de ces personnes d'abandonner l'espoir de rejoindre leur famille et d'accepter l'idée de rester en France et de continuer leur vie en France. Ce ne sera pas facile, je pense en particulier, aux femmes qui veulent rejoindre leur mari en Angleterre. Allez leur expliquer qu'elles doivent refaire leur vie en France, apprendre le français, trouver un travail, puis avoir la nationalité française dans 5 à 10 ans, et alors elles pourront passer en Angleterre. C'est à ce défi-là que nous sommes confrontés et ce ne sera pas facile. Sur ces 700 personnes, la majorité continuera à vouloir aller en Angleterre. Et là se repose le problème de l'accueil, de l'hébergement de ces gens, parce que pour l'instant, la politique est inverse. Nous étions en réunion hier avec Monsieur le préfet du Pas-de-Calais, qui nous a bien précisé qu'il ne tolérerait aucun abri, ne serait-ce qu'une bâche, ne serait-ce qu'une tente. Donc nous sommes à Calais dans le système évoqué tout à l'heure, où on dit si les gens n'ont pas d'abri, du coup, ils vont quitter la France. Voilà, nous sommes tout à fait dans le problème inverse, dans ce qui est un problème spécifique à Calais, Grande-Synthe et d'autres villes du nord de la France.
Christian Salomé, président de l'Auberge des migrants à Calais. Pascal Brice, directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est votre rôle, là, c'est à vous maintenant d'entrer en action avec la création de ces 2 centres.
C'est en tout cas, Christian Salomé a raison de rappeler qu'à Calais, nous sommes dans une situation particulière qui est due au fait que les Britanniques ne veulent pas exercer leur responsabilité de protection de celles et ceux qui relèvent du droit d'asile.
Est-ce que c'est dû aux accords du Touquet qui disent que la France, la frontière est du côté français ?
Non, c'est d'abord parce que les Britanniques ne veulent pas examiner les demandes d'asile de ces personnes. Et avec Christian Salomé, avec d'autres, Jean-Claude Lenoir, Pierre Henry, pendant 2 ans, nous avons sillonné le bidonville de Calais pour convaincre les personnes de demander l'asile. Et moi, je me réjouis que on reprenne le fil de ce qui avait été construit, notamment avec l'auberge des migrants, avec le secours catholique et d'autres. C'est-à-dire que l'on puisse faire en sorte de convaincre les personnes qui sont là de renoncer, hélas, à ce projet vers la Grande-Bretagne, demander l'asile en France. Moi, je partage l'idée, pour avoir été dans ce bidonville pendant 2 ans, comme d'autres, plusieurs fois par mois, qu'il ne faut pas laisser se reconstituer un camp. Mais en revanche, il faut absolument qu'il y ait cet accès aux centres qui viennent d'être évoqués, et derrière, du point de vue de l'OFPRA, l'accès à la demande d'asile. Et Christian Salomé a raison d'insister sur le fait que toute la difficulté est là, de convaincre ces personnes. Mais, encore une fois, héberger tout le monde, héberger et s'assurer de la situation administrative des personnes et du point de vue du droit d'asile qui est fondamental dans notre pays, s'assurer que les personnes auront accès à l'asile lorsqu'elles le souhaitent.
Pierre-Henri, France Terre d'Asile, c'est vous aussi votre rôle d'essayer de leur faire abandonner l'idée de passer de l'autre côté ?
Évidemment, c'est notre rôle, même si à Calais, nous intervenons beaucoup plus sur la situation des mineurs isolés étrangers, qui est une situation particulièrement complexe. Mais ce que l'on observe à Calais, c'est évidemment l'absence de voie d'accès légal à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a externalisé sa politique d'asile et d'immigration sur le territoire national. Et donc, dès lors, nous avons là une situation extrêmement complexe. On peut comprendre que les pouvoirs publics ne veuillent pas de la reconstitution d'un camp à Calais. Et ce que nous réclamions depuis longtemps, c'est qu'il y ait un acheminement permanent des personnes potentiellement demandeuses d'asile et qui peuvent bénéficier d'une protection vers des centres ad hoc. Est-ce que les deux qui ont été créés suffiront ? Les deux centres, je n'en suis pas certain.
Et il surtout, en faut d'autres déjà ?
Mais surtout, je pense qu'il faut arrêter d'agir dans l'urgence et qu'il faut maintenant penser à un système global sur l'ensemble du territoire. Parce que ce que nous voyons à Calais se répète à Paris, à la Porte de la Chapelle, se répète dans la vallée de la Roya ou dans des grandes métropoles régionales. Et donc maintenant, il faut passer à autre chose
et un autre schéma. Il faut aussi passer à la question de l'intégration et je crois que Philippe, au téléphone au 01 45 24 7000, a une question sur ce thème. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir. Je vous remercie de me permettre de parler à l'antenne. Oui, j'ai écouté la personne précédente là concernant l'afflux de migrants. Bon, parce que bon, leur pays, il est vrai, étant en guerre, etc., etc. Mais l'accueil, en fin de compte, les ONG font le maximum, mais n'ont pas les moyens. Ils sont complètement débordés. Donc, il faut que cela soit repris au niveau du gouvernement. Sinon, ça va être insoutenable à un moment donné. Et ils vont être laissés à eux-mêmes. Il va se recréer des camps. Moi, je suis en province, dans une petite ville, bon, qui a 5000 habitants. Bon, il y a
vous êtes 40... où ?
Excusez-moi.
Vous êtes où ?
Dans l'Est, dans le Grand Est, entre Langres et Dijon. Voilà. Hein ? Donc à Langres, il y a des migrants qui sont arrivés. C'est bien, mais le souci, c'est que ils ne parlent pas français. Bon, certains parlent anglais. C'est comment les intégrer lorsqu'ils ne parlent pas notre langue.
Mais justement,
ensuite, comment ?
Justement, Philippe, si vous le permettez, Denis Allard est avec nous. Il est bénévole à l'association Accueil Réfugiés 78, c'est dans les Yvelines. Que répondez-vous à Philippe ?
Il a parfaitement raison. Effectivement, on peut répondre, moi je crois que la France est un pays riche et qu'elle a les moyens. On voit bien les compétences de Monsieur Brice, de Monsieur Henry. Tout ça s'est organisé. Alors c'est un peu compliqué, il y a une espèce de maquis réglementaire. L'Europe s'en est mêlée, il y a Dublin, c'est un bazar pas possible. Mais on a les moyens, on est un pays riche, on peut s'en sortir. Mais, et je comprends le président qui trouve ça un peu moche de voir des gens dans la rue et que ça ferait plus propre de les ranger dans des centres.
Comment les intégrer?
Mais après, comme voilà, nous comment ça Philippe. Se passe? Parce que je vais vous dire, l'accueil digne, il est dans la longueur. Dès lors que vous êtes réfugié statutaire, comme on dit, c'est-à-dire après avoir été demandeur d'asile, ça dure un certain temps. Déjà, je signale au passage que quand vous êtes demandeur d'asile, vous pouvez très bien passer d'un centre à un autre sans qu'on vous dise trop pourquoi. Un centre d'urgence, et puis après vous passez à un CADA, après vous passez dans tout un tas d'acronymes qui font que vous n'avez pas une visibilité très nette sur ce qui se passe. Ces gens-là ont fait des milliers de kilomètres, ont vécu des situations difficiles, ont été dublinés, se sont fait donc avoir aux frontières de l'Italie ou de la Grèce, sont réattribués à ces pays-là.
C'est-à-dire dublinés, les empreintes ont été prises dans le pays d'entrée, et du coup, s'ils font une demande en France, ils sont renvoyés là-bas.
Exactement. On espère que ça va progresser. Je pense que ça sera le cas, j'espère, parce que c'est une drôle d'attitude européenne au passage. Mais après, une fois que ces gens-là sont arrivés en France et qu'ils ont le statut de réfugié, ils sont là pour 10 ans. Alors, pour 10 ans, on leur fait signer un contrat d'intégration républicaine. Ça consiste à savoir parler français, c'est-à-dire en gros pouvoir survivre deux jours dans Paris, parce qu'au-delà, c'est même pas la peine. C'est le niveau A1 du DILF. C'est là aussi, c'est un acronyme. Et c'est aussi une capacité à faire deux modules de 6 heures pour apprendre les règles de la vie en France et les règles républicaines. Vous vous rendez bien compte que c'est pas avec ça que vous allez vous intégrer et c'est pas digne. Et notre association, comme plein d'autres associations, il y a énormément de générosité en France, est capable d'aller accompagner ces personnes réfugiées.
Vous leur donnez des cours de français.
Des cours de français, des cours de citoyenneté. Faut leur parler parce que c'est pas tout de leur donner des cours. Il faut vivre avec. Faut comme c'est des cousins qui viennent d'arriver. Là, on va pas les laisser au bout dans une cabane. Aujourd'hui, on leur fait de l'hôtellerie, de la restauration, un peu de soins sanitaires et on les aide sur le plan administratif. C'est très bien, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est pas comme ça qu'ils vont s'en tirer ces gars-là. Et ils ont qu'une vie et ils la vivent ici chez nous.
Philippe, êtes-vous satisfait des réponses?
Oui, je suis satisfait. Puis-je me permettre d'ajouter quelque chose? Pour pouvoir s'intégrer dans un pays, à mon avis, il y a 4 choses. 1, pour reprendre, apprendre la langue du pays, oui, qui est très important pour pouvoir s'exprimer et échanger, pour progresser.
Parfaitement.
Ensuite, avoir un habitat à peu près correct, correspondant à une vie quotidienne normale.
Oui.
Troisièmement, ensuite, à partir de ce moment-là, ils peuvent trouver du travail. Et puis ensuite, quatrièmement, bien évidemment, ce que la personne a dit précédemment, c'est respecter les lois du pays qui vous accueille. Voilà, c'est aussi simple que ça.
La réaction.
À partir de ce moment-là, ils s'intégreront très facilement. Et moi, je suis prêt aussi à aider pas mal de gens. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. Beaucoup, beaucoup. De par mon métier. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, Philippe, pour vos questions et votre témoignage ce soir sur l'antenne de France Inter. La réaction de Pascal Brice de l'OPFRA.
Moi, je remercie Philippe parce que je crois qu'il nous invite, lui aussi, à être dans la clarté, dans le respect du droit, dans la générosité dont sont capables d'un grand nombre de citoyens dans ce pays, dans la bienveillance dont les administrations sont parfois capables, en tout cas s'y exercent, mais dans la clarté. Parce que, vous voyez par exemple, ces campements qui apparaissent, on n'est pas dans une invasion, mais il y a effectivement un grand nombre de personnes qui arrivent, et des migrants qui sont là. Eh bien, il faut très vite que ces personnes soient prises en charge, que très rapidement on sache si elles souhaitent demander l'asile ou pas. Si elles souhaitent demander l'asile, que rapidement leur demande d'asile soit instruite. Et que si elles relèvent du statut de réfugié reconnu par l'OFPRA, eh bien très vite des politiques d'accompagnement comme M. Allard les accompagne soient mises en place sur le français, la formation professionnelle, l'emploi, le logement. Et c'est vraiment le propos du président de la République à Orléans, que l'on mette un terme à cette confusion, que chaque Français voit dans la rue. Parce que vous voyez quelqu'un dans la rue d'abord, c'est indigne, c'est insupportable, et est-ce qu'il est migrant économique, réfugié, demandeur d'asile? Personne n'y comprend rien. Donc il faut, c'est ce que disait Pierre-Henri tout à l'heure, comme je le comprends, il faut être dans cette construction administrative, politique, citoyenne, qui fait que quelqu'un qui arrive sur notre sol est rapidement pris en charge. S'il relève du droit d'asile, ça doit être rapidement vérifié et ensuite accompagné pour s'intégrer.
Est-ce qu'aujourd'hui, la rapidité de la prise en charge, elle est due à Paris, à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a créé ses centres dans le nord et dans le sud de la capitale?
La maire de Paris a fait ce qui était nécessaire du point de vue de l'amélioration de l'accueil.
Pourquoi ce n'est pas l'État qui le fait?
Et l'État accompagne cette évolution-là. Simplement, Pierre-Henri le disait, il est souhaitable que les dispositifs de cette cette nature puisse exister ailleurs sur le territoire. Et il est également, il y a un phénomène qui fait qu'aujourd'hui, le système d'hébergement est largement bloqué, notamment par ce dont M. Allard parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens qui sont là, qui ont laissé des empreintes ailleurs en Europe, qui sont supposés y repartir, qui en réalité n'y repartent que partiellement. Et donc, c'est l'ensemble du système qui doit être maintenant repensé dans les lignes qui ont été indiquées par le président de la République. C'est-à-dire, on héberge tout le monde, on instruit vite et on intègre rapidement ceux qui relèvent du droit d'asile.
On a bien compris votre message, Pascal Brice. Pierre-Henri de France Terre d'Asile, cette question par mail d'Isabelle qui va aussi pour vous, Denis Allard. Où en est-on à propos du délit de solidarité ? On voit des gens poursuivis, condamnés parce qu'ils ont aidé, ici et là, des migrants.
Oui, et
où est-ce qu'on en
parfois...
Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ?
Là où l'État défaille, il est clair que la solidarité citoyenne vient combler...
Mais qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? C'est quoi ce délit de solidarité ?
On n'a pas le droit de gagner de l'argent, de toucher une rémunération en aidant un migrant. Voilà, c'est principalement cela. Mais si vous me le permettez, je voudrais revenir sur les questions de politique d'intégration. L'action de l'OFPRA sous la conduite de Pascal Brice a remis la protection dans ce pays à la place où elle devait être, c'est-à-dire la première. 36 000 personnes ont obtenu le statut l'année dernière. C'est deux fois plus que deux années auparavant.
Et ça, ça a été possible grâce à plus de moyens ?
Ça a été possible grâce aussi à une action déterminée de l'OFPRA qui, pendant 15 ans, a laissé la Cour nationale du droit d'asile donner le plus de statuts. Et puis, derrière cela, je crois qu'il faut une politique coordonnée. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur la politique d'intégration, mais dans un grand désordre. Il faut coordonner tout cela. Vous savez, les politiques parlent beaucoup d'intégration dans ce pays et il faut aussi dire que les politiques publiques d'intégration sont le parent pauvre de nos politiques. 40 à 80 millions d'euros consacrés aux politiques d'intégration, ce n'est pas beaucoup. Et pour mémoire, la durée linguistique d'apprentissage du français, c'est 200 heures dans notre pays pour un cinquième des primo-arrivants, alors qu'en Allemagne, je donne cette comparaison, c'est 900 heures et pour tout le monde.
Sur la question de solidarité, Anne par Twitter qui dit, Denis Allard, peut-être vous allez répondre, « Notre famille est d'un mineur étranger isolé, mis à la rue par le service d'évaluation à Paris, pourquoi ce soutien serait-il illégal ?»
Alors là, c'est fou, faut demander à un juriste. Nous, notre position, c'est de dire, il y a des gens qui s'occupent de la loi. Il y a des lois qui sont faites, elles peuvent être améliorées, on vient de le voir, mais on est d'abord légaliste. Faut arrêter de se tirer dessus. Il y a des situations d'urgence, faut respecter les lois, faut respecter ce que fait France Terre d'Asile, ce que fait l'OFPRA. Franchement, faut pas rentrer dans ces débats-là. Si les types sont des clandés ou je ne sais quoi, désolé, mais la loi, elle est comme ça. On reverra une autre fois.
Cette émission s'appelle Le Téléphone Sonne. Nous allons au 01 45 24 7000 rejoindre Alexandre. Bonsoir et bienvenue, nous vous écoutons.
Bonsoir, merci de m'accueillir sur l'antenne et merci pour vos émissions.
Merci à vous, nous vous écoutons.
Alors voilà, moi j'ai pas vraiment une question mais plus un témoignage, hein, comme je l'ai un petit peu expliqué auparavant.
Très bien.
Voilà, puisque je travaille donc dans ce qui s'appelle un centre départemental de l'enfance, dans un petit département du sud, un petit département très rural, ce qu'on appelle aussi un foyer d'urgence pour adolescents. Voilà, la situation actuelle est assez compliquée. Après, ce que j'entends donc de l'émission invite à un petit peu espérer des choses, quoi. C'est-à-dire que si vraiment il y a un accueil proposé pour les migrants adultes, aux réfugiés ou pas, demandeurs d'asile ou pas, il y a peut-être des choses qui vont s'alléger. Actuellement, juste pour vous dire un petit peu le contexte, ce centre départemental, il est censé accueillir 14 jeunes. Il a une jauge de sécurité maximum à 29 pour les personnes accueillies. Il y a actuellement 4 jeunes ados du département avec des problématiques très sensibles. Et on est à une quarantaine de personnes en tout, avec des mineurs non accompagnés. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit les mineurs isolés étrangers, on dit maintenant mineurs non accompagnés. Donc des migrants qui arrivent et qui finalement leur façon à eux finalement de demander asile d'une certaine manière, c'est d'arriver là et de dire voilà, nous on est mineurs, en tout cas ils nous sont confiés par exemple par la police qui nous dit ben venez chercher un jeune qui arrive chez nous. qui descendent du train, qui sont un petit peu paumés, mmh. avec donc des parcours, parce que donc moi je suis psy là-bas, je profite de l'émission pour vraiment dire toute mon admiration des éducateurs qui travaillent dans, dans ce centre départemental, parce que ils font un boulot incroyable en termes d'accueil, c'est-à-dire de d'accueillir l'autre en tant qu'humain, enfin avant tout, et peu importe de savoir s'il a 15, 16, 18, 22 ou 34. Et le fait est qu'on demande à ces éducateurs, par exemple, en quelques jours, en 5 jours maximum, de produire une évaluation. Et à partir de cette évaluation, un magistrat va prendre la décision.
Mais l'évaluation sur quoi, pardon, Alexandre, c'est quoi? C'est
alors, elle porte pour vous dire quand même, parce que enfin, l'évaluation apporte sur plusieurs choses. En premier lieu, elle porte sur quelque chose de profondément subjectif et qui devrait normalement pas trop exister. Elle porte sur quelque chose qui repose sur le faciès. C'est-à-dire que d'emblée, on se dit, bah tiens, celui-ci, ouais, quand même, il fait pas mineur, quoi. Voilà. Donc, en premier lieu, il y a ça. Et après, il y a une évaluation. Il y a deux éducateurs, plus précisément, qui ont été un petit peu formés là-dessus. Ils ont un questionnaire. Et ils réinterrogent le parcours, la cohérence du parcours, etc. Et puis, voilà, et à partir de ça, d'une impression, finalement, et puis de croiser des données, d'insister un petit peu sur telle ou telle question, bon, bah voilà, ils vont dire, bah, peut-être il est mineur, peut-être il est majeur, et puis...
En gros, on vous demande trop de choses, c'est une situation difficile pour vous, hein. C'est le sens de votre témoignage, si je puis me permettre, alors, Alexandre.
Elle est surtout difficile, comme je vous dis, pour les éducateurs. Elle est difficile pour moi parce que, à ma position de psy, je suis un tout petit peu décalé et que j'ai décidé de pas cautionner le fait d'être évaluateur de ces enjeux. Pour autant, voilà, je rencontre aussi de temps en temps ces mineurs non accompagnés qui témoignent de parcours. Enfin, il faut rappeler quand même ce qui se passe en Libye, dans les prisons libyennes, les viols et les séquestrations et les maltraitances. Bon, voilà. Et donc, finalement, on se retrouve dans un contexte aussi...
Mais c'est vous qui êtes en bout de chaîne, du coup, dans votre sens. Si vous le permettez, Alexandre, il y a Pierre-Henri qui veut vous répondre de France Terre d'Asie.
Oui, d'abord, je voudrais effectivement saluer le travail des intervenants sociaux sur le terrain, qui est très difficile.
Bah surtout là, si on leur demande d'évaluer...
Oui, mais cette question de la protection des mineurs est une question éminemment complexe. D'abord, qui relève des départements. Je vous rappelle que la protection de l'enfance a en charge la protection des mineurs. Et que dans ce pays, il y a pratiquement autant d'orientation, de politique de protection que de département. Ensuite, il y a une vraie question et très complexe qui est celle de l'évaluation de la minorité. Et aujourd'hui, il y a dans la loi le recours à des tests osseux qui...
Là, a priori, Alexandre nous dit que c'est au faciès.
Oui, non, c'est en règle générale, c'est un test osseux qui permet de déterminer...
On va lui demander, Alexandre est encore là ?
La minorité, et ça repose sur un atlas qui a été élaboré dans les années 30. C'est-à-dire il y a plus de 85 ans,
Alexandre,
et qui présente 18 mois d'incertitude.
Est-ce que vous pratiquez ce test osseux?
Ah, mais alors, c'est pas à lui de le pratiquer.
Non, mais est-ce que c'est pratiqué?
Alors, il faut savoir qu'à partir de l'évaluation de mes collègues, s'ils mettent un doute, par exemple, on ne sait pas, le magistrat va ordonner donc une expertise osseuse. Et c'est le CHU de la région qui va faire. Ce CHU actuellement commence à nous faire entendre que c'est tellement peu fiable, puisque c'est plus ou moins
18 mois d'incertitude.
Voilà, de 2 ans, 18 mois d'incertitude, que eux, ils vont certainement se rétracter et arrêter de le faire. Il faut savoir aussi qu'une fois que cette évaluation, elle est faite, ces jeunes-là, ils sont en stand-by, ils sont là, ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, il faut voir l'angoisse que ça peut générer aussi chez eux, et puis, après, la grande question, c'est, mais à qui leur annoncer si, finalement, bah voilà, la sanction couperait, c'est finalement, t'as été déterminé par une radio majeure, et donc demain... Ben,
radiographie, pas une radio.
Voilà. Radiographie, ouais.
Et donc,
en fin de compte, non, tout à fait. Et après, bon, nous, peut-être que nous, on pêche par le fait d'être un petit peu la tête dans le guidon, mais par exemple, une fois que ces jeunes, ils sont évalués majeurs, éventuellement, on sait pas trop suffisamment bien vers où les orienter, quoi leur dire, et il y a vraiment, enfin là... Il y a quelque chose qui manque aussi du côté de l'information. Peut-être que ces mineurs, en tout cas qui se déclarent mineurs pour être pris en charge, et pour certains ils le sont vraiment, il n'y a pas de souci, mais pour d'autres, ben ils tentent quelque chose et peut-être ils ont raison de le tenter comme ça. Et peut-être que s'ils étaient bien informés, bien au courant de d'autres dispositifs en place et bienveillants, j'ai envie de dire. Ouais. Et peut-être qu'on se retrouverait pas dans une situation où là, la juge de l'établissement est à 29 et on est à 40. Et dans une situation où on a des
situations de 15 très ans. Difficile pour vous, effectivement, Alexandre.
Non, mais deux dangers pour certaines personnes.
Merci,
clairement.
Alexandre. Pardon de vous précipiter, mais il y a évidemment, vous l'imaginez, beaucoup de monde au standard de France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Annick, la parole est à vous.
Bonsoir. Merci.
Bonsoir.
Je voulais alerter sur l'ouverture très précipitée des nouvelles structures qui s'appellent des PRADA, plateforme régionale d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. Ces structures ont été imaginées par le gouvernement précédent qui, à cet effet, a racheté au groupe Accor pour 156 millions d'euros des hôtels Formule 1 et la gestion de ces centres est très majoritairement, totalement, je ne sais pas, donnée à Adoma, qui est la structure qui a pris la suite, la structure associative qui a pris la suite de la Sonacotra. Dans mon département, le Formule 1 a fermé ses portes mardi de la semaine dernière.
Dans quel département êtes-vous ?
Le 79, les Deux-Sèvres. Il était prévu que les hôtels, les travaux soient faits pour aménager ces hôtels de façon à accueillir ce qui était prévu dans les textes. C'est-à-dire faire des cuisines, faire une buanderie, etc. Le Prada qui a ouvert dans le département a ouvert pour 92 résidents. Il y en a eu 19 qui sont rentrés la semaine dernière, 18 qui sont rentrés hier, sachant que il n'y a pas de cuisine en dehors de la kitchenette des Formule 1 pour réchauffer les petits-déjeuners. Mmh. Actuellement, il y a un réchaud électrique avec deux plaques qui fonctionnent et trois fours à micro-ondes et aucune machine à laver. Sachant que les populations de la petite agglomération, ça se trouve dans la banlieue de New York, si on peut dire, n'ont pas été prévenus du démarrage de l'accueil. Mmh. Alors, Adoma avait à cet effet recruté deux travailleurs sociaux qui sont expérimentés, parce que souvent les structures démarrent avec des travailleurs sociaux qui sortent de l'école, si je puis dire, ce qui ne manque un peu d'expérience, ça rend parfois les choses compliquées. Les
pour vous, Annick, vous dites quand même que l'accueil n'est pas... les gens qui sont placés dans ces camps sont plutôt maltraités.
Alors, ce ne sont pas des camps, ce sont des structures. Pourquoi je
Mais c'est le sens de votre réaction ce soir. On va donner la parole, évidemment, à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. C'est le sens de votre témoignage ce soir.
Oui, et en même temps, les personnes ont été sorties de centres d'accueil d'hébergement, CAO, qui avait été ouvert en 2016 par le gouvernement Hollande de la même façon, CAO, dont les missions étaient devenues assez diverses et complexes, finalement. Et on a l'impression, là, qu'il y a les CADA. Et puis après, en dessous CADA qui coûte moins cher, on a mis les CAO.
D'accord, on ne va pas faire tout le détail. En tout cas, là, vous avez commencé à parler des PRADA et Pascal Brice de l'OFRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vous répond.
Moi, je trouve qu'à travers les interventions des auditeurs, on voit combien la mise en œuvre de cet engagement du président de la République, on l'a dit, ça dépend de moyens qui vont être mis en œuvre par l'État, mais combien c'est une question citoyenne. Parce que moi, je vois bien, je me rends un peu partout sur le territoire national et je vois bien ce qui s'y passe à chaque fois. Je l'ai vu notamment à travers l'accueil des 15 000 personnes que nous avons convaincues de quitter Calais en 2015, en 2016 avec les associations. Comment ça se passe ? Ben, vous avez partout, par exemple chez moi en Loire-Atlantique, c'est la même chose dans les Deux-Sèvres, c'est un peu partout comme ça. À la fois, vous avez des enthousiasmes à accueillir, Monsieur Allard, dans son département. Vous en avez des Monsieur Allard, vous en avez des milliers, des dizaines dizaines, des centaines de milliers dans ce pays. Vous avez aussi des citoyens qui, très légitimement, de mon point de vue, se posent des questions. Je dis, bah, tiens, d'un coup, chez moi, dans mon quartier, mon village, arrivent des gens, sont des étrangers, je ne sais pas trop. Ils sont de bonne foi, mais ils s'interrogent.
On a beaucoup de mails, hein, dans ce sens.
Et je mets de côté les instrumentalisations politiques, parce que ça ne m'intéresse pas, on sait que ça existe. Et ce que je vois à chaque fois, c'est que lorsque ces structures se mettent en place, dans la concertation, et c'est compliqué pour l'État, pour les préfets, que d'arriver à convaincre de mettre en place ces structures, parfois dans l'urgence, de manière à ce que les gens soient accueillis. Dès lors que les élus s'engagent, ils sont souvent très courageux, très présents.
Mais sur le cas précis, là, des Prada, comme l'évoquait Annie, qui est bénévole, je le rappelle.
J'y suis sur ce point, parce que là, si vous voulez, l'enjeu, c'est quoi ?
Regardez la pendule, on approche bientôt
l'enjeu,
des 20h.
L'enjeu, c'est qu'il puisse y avoir ces hébergements un peu partout, que l'on arrive à construire ça, et si vous voulez, après on est pris en étau à certains moments. C'est-à-dire que d'un coup, des gens nous disent mais non, faut pas accueillir, il y a trop de gens, puis de l'autre vous accueillez mal dans de mauvaises conditions. Donc il faut que tous nous soyons dans cette révolution culturelle, nous l'appliquons à l'OFPRA de manière à ce que nous réussissions un accueil digne et efficace dans de bonnes conditions et dans la concertation, dans la mobilisation des uns et des
Pierre
autres.
Pierre-Henri, France Terre d'Asie.
Oui, je crois surtout qu'il faut simplifier le dispositif. Il y a effectivement plein d'acronymes qui ont surgi ces dernières années, les PRADA, les CAO, les CHU, etc. Le dispositif pivot aujourd'hui pour accueillir, c'est le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, dès lors qu'on a été identifié sur le territoire. Et ça veut dire qu'il faut des centres de premier accueil et des centres de transit. Pour le PRADA, en l'occurrence, il s'agit là, pour vous répondre très précisément, d'un appel à projet qui a été lancé par le ministère de l'Intérieur et qui est destiné en réalité à accueillir des personnes qui sont placées sous Dublin, sous règlement Dublin. C'est-à-dire qu'ils sont destinés plutôt à repartir dans un autre pays européen.
Le premier pays d'arrivée.
Et cela ne pose un certain nombre de difficultés, parce que le règlement Dublin, comme vous le savez, c'est un règlement asymétrique, très complexe à mettre en œuvre et qui ne peut fonctionner qu'avec la solidarité des autres pays européens.
Lola est au téléphone au 01 45 24 7000. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir. Voilà, moi j'ai 62 ans, je suis à la retraite, j'étais infirmière et psy. Donc je m'occupe beaucoup de tous ces jeunes gens parce que pour la plupart ce sont des enfants. Comment se fait-il à tous les gens là qui parlent très très bien, comment se fait-il qu'on se fasse, nous, non pas dubliner, intimider, vérifier les os, tout ce que vous voudrez rejeter, mais comment se fait-il que lorsque d'autres gens que les associations qui ont pignon sur rue essayent de donner à manger de manière régulière, essayent de soigner de manière régulière, essayent de prendre des mômes chez nous parce qu'on ne peut pas laisser ses enfants dans la rue, comme dit notre grand chef, hein. Comment se fait-il que nous nous fassions bousculer, matraquer, gazer au poivre, je ne sais pas quoi, qu'on renverse nos tables, qu'on fait fuir tout le monde, que c'est pas un droit? Si, c'est un droit. Nous sommes en France, ce sont des êtres humains, cela pourrait être nos enfants à nous.
Denis, voilà. Denis Allard, merci Lola. Denis Allard de l'association Accueil Réfugiés 78.
Alors, c'est une situation que rencontre effectivement sur le terrain, sur laquelle on est assez mitigé. Écoutez, l'État propose une hôtellerie, ce qu'on appelle une hôtellerie, une restauration. Toutes les associations qui sont mandatées pour le faire ont de l'argent pour ça et le font normalement. Alors bien sûr, de temps en temps, il y a un surcroît, ça se passe dans la rue et ça se passe mal. Mais en vérité, l'hôtellerie, elle est assurée. Je crois qu'il y a une grande générosité, comme on ne sait plus à le dire tout au long de l'émission en France, mais il faut absolument qu'elle soit organisée, c'est-à-dire qu'il y ait des contrats publics-privés, des partenariats publics-privés entre l'État et les citoyens, parce que c'est une histoire de citoyens. Là, ce qui nous est proposé, c'est un moment historique. Il y a des populations qui viennent chez nous, qui n'ont pas choisi de venir, et nous, on n'a pas forcément choisi de les recevoir. On va vivre des grands moments ensemble, dès lors qu'on veut bien s'organiser. Alors, je comprends que cette dame, elle soit choquée, parce que ça se passe pas toujours très bien. Mais en vérité, il y a des organisations qui se mettent en place, et il faut absolument que l'État, et je pense qu'il est prêt à le faire, accepte que les citoyens s'organisent avec lui, et pas contre lui, parce que là, vous voyez bien qu'on est
Il y a des antagonismes qui naissent, on n'a pas, on ne va pas donner la bonne machin, il y a seulement un four à micro-ondes, il y a seulement je sais pas quoi. Peu importe, c'est pas vrai. On va pouvoir y arriver dès lors que toutes les bonnes volontés s'unissent et on est capable de le faire. Et nous, on est prêt à le faire. Mais les citoyens devront intervenir parce que ça ne se passera pas uniquement par le transit de l'argent. L'argent ne réglera pas tout. Il faut d'abord de l'humanité, de la fraternité. Et c'est ça qui va compter pour
humanité
un accueil réussi.
Et fraternité pour le mot de la fin. Pierre-Henri, directeur général de l'association France Terre d'Asile, merci d'être venu ce soir. Denis Allard, bénévole donc de l'association Accueil Réfugiés 78, et Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA. Cette émission est à réécouter évidemment sur franceinter.fr et en podcast.